Mes chères auditrices, mes chers auditeurs, bonjour.
D'ailleurs, beaucoup croient que le jazz n'est simplement qu'une musique de danse.
Oui, oui. En réalité, n'est-ce pas, je crois que c'est tout à fait autre chose. Je me demande par exemple pourquoi il se trouve qu'à 50 ans, n'est-ce pas, je m'intéresse tout autant à ce genre de musique que lorsque j'en avais 14.
J'estime que le jazz est indispensable pour donner une force et une intensité qui dépasse un petit peu ce qu'on appelle la musique. Je suis très fier d'avoir compris que ce n'était pas du tout une mode, mais une pulsation. Le jazz n'était pas une mode, que ça ne s'arrêterait plus. Ce n'est pas que je ne trouve pas que le jazz soit... Je ne dis pas que le jazz n'est pas de la musique, parce que c'est devenu de la musique et de la musique très importante qui correspond aux algèbres de Mozart, de Bach et de Schoenberg. C'est une musique très très importante.
Quand le jazz s'habille en standard, alors on va remonter très loin dans le temps, dans l'histoire du jazz, on va être en 1925, et oui. Et il faut dire qu'à ce moment-là, Benjamin Anselwitz, qui prendra comme nom d'artiste Ben Bernie, eh bien, violoniste de son état, il avait commencé à illustrer des vaudevilles. Il va apparaître également dans le film Wake Up and Live. Eh bien, en 1925, avec Maceo Pinkard et Kin Casey, il va composer la chanson « Sweet Georgia Brown ». Et Dieu sait si ce thème est devenu joué, rejoué et re-rejoué. Je crois que c'est plus de 1700, 1800 fois. Ce thème, il va, dès le début, apparaître comme un véritable succès. Il restera 13 semaines au sommet des hit parades. En 1952, évidemment, c'est déjà un peu ancien, ce thème servira également d'indicatif pour les Harlem Globetrotters. Vous savez, ces spectacles de basketteurs américains qui ont fait un peu le tour du monde avec un spectacle flamboyant, avec des passes, avec toute une chorégraphie, dirons-nous. Eh bien voilà, on va écouter donc la première version par l'orchestre de Ben Bernie, et ça se passe tout simplement le 19 mars 1925. Thank you. Une compo d'un violoniste ne pouvait que séduire notre violoniste national le plus connu, c'est bien sûr Stéphane Grappelli. Alors Stéphane Grappelli, il va faire appel à Michel Warlop, un autre violoniste, et puis pour compléter le tout, eh bien tout simplement, il fera appel également à un troisième violoniste américain cette fois-ci, ce sera Eddie South. Il est accompagné donc par Roger Chaput à la guitare, Ernest Wilson Myers à la basse. On est en septembre 1937, le 29, et bien sûr, Django Reinhardt sera là, ce sera même lui l'arrangeur. Ce thème, évidemment, se prête bien sûr au style Dixieland. Et certes, il y a la version de Sidney Bechet, mais avant celle-ci, il y aura donc un autre pianiste qui va s'en préoccuper. Ce sera Art Odds et ses Blue Note Jazzmen. Ça se passera le 1er juin 1944. Il y aura donc Max Kaminski, trompette, Vic Dickinson, trombone, Edmond Hall à la clarinette, Art Odds donc au piano, Jimmy Shirley à la guitare, Sid Weiss à la basse et Danny Alvin à la batterie.
Thank you.
Dans les années 40, Nat King Cole est bien plus connu pour ses prestations vocales que pour son jeu de piano. Et pourtant, il faudra attendre donc 1946 pour qu'il interprète cette version en trio, mais cette fois-ci en vocal. Nous, on va le retrouver tout simplement au piano, avec Oscar Moore à la guitare et Johnny Miller à la basse. On est à Los Angeles en juillet 1944. Thank you.